Hey, salut tout le monde. Bienvenue à cette balado live simplement plein air sur YouTube. Mon nom est Guy Martin, votre hôte. Écoutez, on a toute une soirée. Pour commencer, là, on va faire une petite chose que je fais habituellement. En attendant que les gens arrivent, hein, on le sait que c'est enregistré, vous allez pouvoir le revoir en différé. Mais on va aller de ce pas, ce que j'appelle faire la vaisselle. C'est quoi faire la vaisselle chez simplement plein air? Ben, des petites nouvelles, hein? On sait que ce soir, puis là, je vais le répéter parce qu'on n'a pas grand monde qui sont là présentement, là, mais on va avoir des prix à donner. Un prix à donner, c'est une carte cadeau. Oui, une carte cadeau d'une valeur de 25 $ chez nos marchands Pro Nature, peu importe où vous soyez au Québec, là. Vous allez chez un Pro Nature, on fait tirer ça, mais la façon qu'on va le faire, c'est qu'il va falloir. Je m'excuse, il va falloir que vous me laissez un commentaire. Et puis là, dans les commentaires, moi, je peux tirer ça peut-être au milieu, peut-être à la fin, peut-être aux trois quarts de l'enregistrement. C'est sûr qu'on va le répéter, là. Mais on va faire le tirage et vous allez voir. Ça va être super le fun. Donc, autre chose, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Pourquoi s'abonner à la chaîne YouTube de Simplement plein air? Très simple. Hein? C'est que de un, vous aidez la chaîne simplement, vous aidez simplement plein air, hein, à atteindre les 1000 abonnés simplement plein air afin que l'on puisse naturellement monétiser. Puis je m'en cache pas, c'est pas un shame plug, c'est que je suis travailleur autonome, donc j'aime bien naturellement être payé pour ce que je fais. On a de très très bons commanditaires naturellement. Donc abonnez-vous à la chaîne simplement plein air et rendu à 500. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un beau tirage, des tirages. Je ne devrais pas dire un tirage, hein, parce que c'est des tirages. On va faire un paquet de tirages. Vous allez voir, ça va être super trippant. Super le fun. Il va y avoir beaucoup de prix, genre Yeti, Pro Nature, Monsieur Larivière qui nous offre une coupe de bouquins. On a beaucoup de choses encore là, qui s'en viennent, qu'on est en pourparler. Donc, soyez des nôtres et vous allez voir que. Ça en vaut la peine d'être ici chez Simplement plein air. L'autre chose, ce soir, on va rencontrer un type que j'ai connu il y a une couple d'années, puis peut-être que cette personne-là va pouvoir vous informer comment on s'est rencontrés. Je pourrais vous dire que je ne me rappelle plus, mais ça a cliqué comme ça. Ça fait maintenant plus de 2 ans que cette personne-là nous informe sur ce qui se passe au nord du 53e parallèle. Et oui, vous avez lu dans les commentaires, vous avez sans doute vu des petits clips vidéo qui ont passé cette semaine et qui ont parlé de Sylvain. Sylvain, qui est un homme qui vit au nord, sans électricité, sans eau courante, sans chauffage conventionnel. Mais là, ça va être le temps d'aller voir Sylvain et de lui demander comment il fait tout ça. Et pour ce faire, ben, pourquoi pas aller le chercher, hein? Et voilà, salut mon ami Sylvain, comment vas-tu?
Salut Guy, ça va super
Hey,
bien toi? Ben, comme d'habitude, on est rendu, mon Guy, à moins 4 degrés. Cet après-midi, il faisait moins 8. Puis là, à 17 heures, moins 4 degrés, avec encore de la bruine verglaçante. Fait que
c'est
ça se
SPP.
pourrait que le réseau ait dératé.
Donc, on va espérer que le réseau n'est pas de raté. Parce qu'on a beaucoup, mais là, beaucoup, beaucoup de questions. Et puis les gens commencent à rentrer là, tranquillement. C'est le fun. On va avoir beaucoup de questions à te poser, mon cher. Ça va être vraiment, vraiment plaisant, là. Une belle soirée, relax, un vendredi soir. Donc, allez chercher votre breuvage préféré, tisane, eau, bière, vin, peu importe. Allez faire un tour, allez chercher ça. Et puis revenez, et puis nous, ben, on va jaser. Puis écoute, Sylvain, on va parler de choses et d'autres en attendant un peu, là. Mais toi, tu me disais là, dernièrement encore qu'au nord, ça fait là, 24 ans que tu s'en vas dans ta 24e année. Tu n'as jamais vécu une température comme ça, là.
Absolument pas. En
C'est.
24 ans, c'est exceptionnel de voir un mois de janvier. Oui, on a eu une ou deux journées à moins 20, moins 24, mais ça n'a rien à voir, là. Ça n'a rien à voir. Là, 2 ans, je regardais mes. T'sais, Facebook nous ramène tout le temps un peu en arrière. Puis on avait aujourd'hui une alerte pour la nuit prochaine et demain, là, 2 ans, de froid extrême de moins 45. Puis je me souviens, on a eu du moins 52. Là, ben cet après-midi, il faisait moins 8, puis là, il fait moins 4. Donc, c'est un petit peu exceptionnel de voir cette température-là si chaude que ça en janvier.
Oui, en janvier, c'est assez spécial. Et puis, on a justement, on le salue aussi, Michel Sigouin qui est avec nous, puis qui nous demande, qui te demande, Sylvain, es-tu en couvre-feu à 20h où est-ce que tu es chez vous?
Ben, couvre-feu, je vais dire, mes voisins les plus proches sont à 40 km au nord, puis mes voisins les plus proches vers le sud sont à 581 km. Fait que question de confinement, je crois pas que c'est un problème. Puis couvre-feu, ben, techniquement, on n'est pas supposé d'avoir de couvre-feu, mais je vais dire, les policiers arrêtent de patrouiller à 4h30. Fait que techniquement, je suis en entour du building, je suis safe, puis je ne fais pas de motoneige le soir quand il fait noir, trop dangereux.
Oui, non, c'est sûr et certain que c'est dangereux le soir, là. Et puis, écoute, Sylvain, moi, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton histoire, parce que, naturellement, tu n'es pas né au nord, là. Tu n'es pas né en dessous d'un sapin à quelque part dans la forêt boréale. Tu as eu une vie avant d'arriver là-bas. C'est quoi cette vie-là? Qu'est-ce que ça avait l'air? Est-ce que tu étais un gars de nature déjà au départ? Ou si tout d'un coup tu t'es dit, bon, ben là, moi je m'exile parce que le goût de l'aventure ou qu'est-ce qui est arrivé pour que tu te ramasses au nord du 53e parallèle à Abbé James, entre autres?
Ben, je te dirais qu'à la base, je viens de l'est de Montréal. Quartier Tétroville, à côté des raffineries. C'est pour ça que je suis un petit peu un gars assez raffiné. J'ai toujours été un amant de la nature. Moi, l'été, j'allais passer du temps en campagne, Rive-Sud de Trois-Rivières, Manceau, Saint-Pierre-les-Béquets, Deschaillons, Sainte-Sophie, Sainte-Cécile, ces secteurs-là. Étant jeune, j'allais aider mon oncle l'été. Il y avait une porcherie, donc j'allais l'aider pendant quelques semaines pour le plaisir. C'était un peu mes vacances. J'ai toujours été un amateur de plein air. J'ai fait du scoutisme étant jeune. Donc, je te dirais, tout ce qui est plein air, j'ai tout le temps adoré ça. J'ai toujours été vraiment un amant de la nature. De fil en aiguille, ben j'ai travaillé dans toutes sortes de boulots. J'ai travaillé ces expositions comme Saint-Hyacinthe. J'ai été tatoueur. J'ai travaillé dans le domaine du multimédia. Dans le début de l'Internet, dans les années 90, consultant en développement touristique. Je te dirais, j'ai touché pas mal à tout, fait beaucoup de motos. C'est vraiment de fil en aiguille qui m'a amené à venir faire un tour dans le Nord pendant 3 semaines. Puis, je suis venu voir un de mes amis qui travaillait comme spécialiste d'information de vol à l'aéroport de la Grande-Rivière. Puis, je suis tombé en amour avec le territoire, je suis tombé en amour avec la grande nature. Je me suis fait des amis cris, je fais quelques amis à Radisson aussi. Puis, les premières années, je vivais dans un tipi. Je restais quand même chez mon ami Gilbert, là. J'avais un tipi au lac des Auniers, anciennement appelé le lac Attila, qui est à peu près à 10 km à l'est du camp des Pins, où je vis présentement. Puis, je passais 10 mois par année là-bas avec mon ordinateur portable, justement, à me promener en forêt, voir le développement économique, qu'est-ce qu'il y avait comme produit, à suivre les animaux. Et je te dirais, dans les premières années que je suis arrivé ici, je faisais des émissions comme Les Aventures du Grand Talbot Music Plus. Puis il y a une émission qui a vraiment changé ma vie.
Ouais. On va en parler.
Fait que, ça a été un petit peu tout ça. Fait que ça m'a permis de prendre place dans le Nord. Puis, je te dirais, sans vraiment m'en apercevoir, j'ai pris racine. Tu sais, c'est de fil en aiguille, tu ne vois pas le temps passer ici. Puis, ça va faire 24 ans.
Oui, parce que je te dirais là, qu'il faut quand même une personne spéciale là, pour avoir une constitution spéciale pour arriver là-bas. On le sait que c'est un isolement, finalement, hein, parce que là, toi, tu vis au camp des Pins, là, on voit de la lumière, on te voit à l'ordinateur, Puis on se demande, bien là, Guy, tu ne nous avais pas dit qu'il n'y a pas d'électricité, pas de chauffage, il n'y a pas d'eau courante. Comment ça se fait qu'on le voit là, là? Comment ça se fait, Sylvain?
Bien, je te dirais comment ça se fait. C'est une chose très, très simple. J'ai une petite génératrice de 4000 watts qui fonctionne présentement. J'ai 600 watts de panneaux solaires qui me permet l'été d'avoir, de ne pas utiliser pratiquement ma génératrice. Ça fait rouler au moins un ordinateur portable, mon réseau Wi-Fi, Internet par satellite et tout ça. Plus, je veux dire, un amplificateur de signal pour mon téléphone. Mais l'hiver, les journées sont tellement tout petites. Puis, vu qu'on a une couverture nuageuse depuis un petit bout, il me faut une génératrice. Donc, génératrice, charge les batteries. J'arrive à avoir une qualité de vie, puis pour le travail aussi, qui est vraiment intéressante. Mais tout est une gestion, hein. Donc, la gestion de la génératrice, des panneaux solaires, comme là, aller les déneiger régulièrement, profiter de la luminosité quand il y en a le maximum. Fait que ça me permet d'avoir l'Internet par satellite, l'Internet par le téléphone, d'avoir un téléphone, d'avoir un réseau Wi-Fi 500 mètres en entour du camp. Je te dirais, c'est le meilleur de deux mondes.
Oui, absolument, parce que là, c'est ça, c'est comme tu nous le dis souvent, hein, le système D est là. Ta mère t'a donné un système D, tu t'es débrouillé, mais ça n'a pas dû être évident, là, parce que là, on sait que, écoute, puis regarde bien, là, je vais faire jouer un petit clip que j'ai enregistré cet après-midi, une question, regarde bien ça. Dans les 15 dernières années, Sylvain chauffe au bois. Il n'a pas coupé un arbre. Zéro arbre ont été coupés. Chauffe avec quoi? Avec quoi chauffe, Sylvain?
Bien, première des choses, à 2,5 km, j'ai un dépotoir avec une montagne de 2 par 4, de 2 par 6, de palettes de bois, du bois franc, des fois c'est de l'érable, du merisier. Des gros beans, des 12 par 12, toutes sortes de trucs comme ça. Je chauffe avec ça. Ça me donnerait, premièrement, si je me mettrais à couper des pins et des épinettes en entour du camp qui sont toutes petites, j'aurais plus d'arbres. Tu sais, je brûle à peu près 4000 palettes par hiver.
On parle de 4000 palettes?
4000 palettes. Oh, okay. Habituellement, là, je te dirais de septembre à aller au mois de mai, je brûle facilement 4000 palettes.
Ça commence à faire du bois. Mais là, des palettes, là, qu'est-ce qu'ils vont... C'est des palettes d'Hydro-Québec? Ça vient d'où, ça?
Ah, ben, c'est des palettes de l'aéroport, le cargo de l'aéroport, Hydro-Québec, les compagnies de construction, je te dirais l'épicerie, tout est sur palette à cette heure. Donc, la plupart des palettes, tu vois, il y a des palettes, on les voit souvent, des bleus, des oranges. Mais ces bleus et oranges-là, quand c'est pas brisé, ça vaut 5, c'est 50 $ sauf qu'ils se retrouvent tout au dépotoir. Pourquoi? Parce que le retour vers le sud coûte plus cher que de foutre à la poubelle. Donc, ce que je fais, c'est que je vais trier tout ça. Mes palettes de bois franc, je vais les mettre de côté, je vais les utiliser quand il va faire très, très froid. Puis mes palettes, ce que moi j'appelle un peu chipette, en petit pain, en petit bout de bois, bien, je vais faire du bois d'allumage avec ou je vais chauffer, comme dernièrement, à moins 4, moins 8 degrés, je vais chauffer avec ces palettes-là qui me donnent un peu de BTU, mais je veux dire quand même qui carbure pas comme une palette d'érable. Là, tu sais. C'est une question d'organisation.
Ah ouais, absolument. Puis l'autre chose, on va montrer un petit clip, là, justement, de comment tu fais ça, là. Là, on le voit le remplir des barils. Hein? On le voit remplir des barils. Mm-hmm. Ça prend combien de barils dans une journée pour chauffer, là, justement?
Bon, tu vois, comme présentement, si on calcule qu'une température de moins 4 à moins 10 le jour et la nuit, c'est 2 barils. Un baril, c'est à peu près 2 palettes. Fait que ça veut dire que dans ce temps-ci, avec une température de moins 4 à moins 10 le jour et la nuit, c'est à peu près 2 barils par jour. Mais on s'entend, ça dépend aussi de la grosseur de la palette. C'est juste du petit bois tout petit, tout mince, ça va peut-être me prendre 5 palettes. Mais c'est pas grave, ceux-là, je les utilise quand il fait pas froid. Mais dans une température de moins 20, moins 25, où il y a du grand vent, parce qu'il ne faut pas oublier que les bâtiments où je suis, qui sont les anciens bâtiments de la Sopfeu, c'est des bâtiments d'été. Ben là, je peux aller à 4 barils et des fois à, comme là, 2 ans, à moins 5, à moins 45, moins 56, 57 avec le vent, ben je peux passer 8 à 10 palettes par jour. Fait que 8 à 10 palettes par jour, ça en fait, là.
Ça commence à faire du stock pas mal, là. Écoute, Sylvain, je vais prendre juste 2 petites secondes pour rappeler aux gens, là, on a plus de gens, que ce soir, avec votre commentaire à la fin de l'émission ou aux 3/4 de l'émission, à quelque part, je vais faire le choix parmi les commentaires qu'on va avoir, parmi les questions qu'on va avoir, je vais faire tirer une carte cadeau de Pro Nature d'une valeur de 25$. Donc, si vous avez des questions, c'est le temps, allez-y. Vous risquez de gagner 25$, hein? Juste comme ça. Et on a une autre question de notre ami Michel Sigouin. Michel nous demande, y a-t-il des feuillus par chez vous?
Ouais, peuplier Fautrembe, il y a quelques bouleaux, mais c'est très localisé par endroit. Mais c'est beaucoup, je te dirais, beaucoup plus peuplier Fautrembe.
C'est plus, ouais, t'as pas de bois frais.
Moi, quand des pins, c'est...
Ouais.
Ah non.
Non, hein?
Pas en tout. C'est du pain. Je te dirais, ce qui est bon l'été, c'est le bois de grève, le bois rejeté par le réservoir. Un coup coupé, ça fait 25 ans qu'il est dans l'eau, je te dirais, ça chauffe comme du bois franc. Mais quand tu es à pied, puis il faut que tu tapes 10 km dans la gravelle pour aller chercher du bois, pour mettre ça sur le dos, c'est un petit peu compliqué. Ouais, tu sais, dernièrement, encore, les gens me faisaient comme commentaire, « Ouais, mais pourquoi tu ne te prépares pas l'été? C'est pas juste à pied. » À pied. Ouais,
c'est ça. Puis moi, je me rappelle...
Tu te souviens, Guy, il y a 2 ans, quand la motoneige est tombée en panne?
C'est ce que je m'en allais dire. Je me rappelle, moi, des journées qui faisaient froid. Et puis les gens vont me dire, oh, 2,5 km, ça se fait bien. Moi, je te dirais que 2,5 km aller, 2,5 km retour, avec une traîne... On traîne des palettes et puis on sait que dans ce temps-là, il faisait froid, si tu te rappelles bien, Sylvain, il faisait excessivement froid. C'était assez fou. On a une très bonne question de notre ami Dave Champagne ici, là, qui te demande comment est-ce que tu procèdes au nettoyage des clous, parce que des clous dans une palette, il y en a-tu?
Ah, il y en a. Enfin, c'est vider le poêle 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Oui, oui, je suis là.
Ah, OK.
Un, deux, je suis là, Guy.
Tu avais perdu. Parfait, c'est beau.
Au niveau, ça, à cette heure-là, ça arrive. Ah, il est 19h19. Écoute, au niveau des clous, je ne peux pas les enlever. Oublie ça, ça me prendrait. Ah. Ce que je fais... C'est que je vais vider le poêle, tout dépendant. Ça peut être aux 2 jours, aux 3 jours, une fois par semaine, tout dépendant comment je chauffe. Et j'ai un endroit spécifique où ce que je vais mettre mon café, la crotte de chien, les légumes. Au printemps, je vais mettre le gazon, les feuilles. Fait que je fais un genre de gros compost. Puis, ben, j'ai comme pas le choix, là. Je veux dire, ça n'en fait des clous, là. C'est hallucinant le nombre de clous que je peux sortir de là, là.
Oui, hein? Puis ça, il n'y a rien que tu peux faire avec ça. Il n'y a pas grand-chose.
Ben, oui, je pourrais probablement les mettre dans un baril puis dire aux recycleurs de venir les chercher, mais on est tellement loin qu'on a zéro service de recyclage. Donc, aller l'amener au dépotoir où ils trouvaient une utilité ici avec du compost, puis avec le gazon, puis tout l'enfouissement que ça fait là, ben, je veux dire, vaut mieux que ça soit dans un endroit de compost ici que de l'amener au dépotoir qui est encore un autre une autre problématique, là, de transporter un baril de 45 gallons rempli de clous. Je vais te dire, Abby, ouais, avec un petit diable, ça va bien pour descendre la côte, mais pour la montée, c'est une autre histoire.
C'est pas trop humain. Puis en parlant du dépotoir, ben on va aller écouter un petit clip. Savez-vous comment Sylvain surnomme le dépotoir municipal de Reddison? Eh oui, son Canadian Tire. Hey, oui, mon cher, puis on se souvient très bien, tu m'en as conté des choses à propos de ce Canadian Tire-là. M'explique un peu aux gens, Sylvain, pourquoi est-ce que tu appelles ça Canadian Tire?
Parce qu'on y retrouve de tout, mais pas nécessairement tout le temps des amis. Non, sérieusement, il y a vraiment de tout, là, Guy, c'est hallucinant. Là. Tu vois, l'écran qu'il y a là, je l'ai trouvé la semaine dernière. Est un petit peu plus carré, c'est une HP, c'est pas un dernier modèle, elle est pas graffinée, elle est super belle, ouais, il y a peut-être des petits scratchs à l'endos, là, mais je veux dire, elle fonctionne super bien, là, je veux dire, je l'utilise présentement pour faire des directs avec une de mes ordinateurs. Il y a 2 ans, j'ai trouvé une grosse écran professionnel pour faire de la photo, pour faire de la photographie, du graphisme, de la vidéo. Elle était là, elle était même pas maganée, je l'ai pris, je l'ai emmené. Je l'ai laissé se réchauffer pendant 24 heures. Je l'ai branché, puis écoute, je fais tout mon travail de programmation, de montage vidéo, de photos, je fais tout ça avec ça. J'ai trouvé des gants, j'ai trouvé des amplis, des lumières, des fils, des raquettes, des 2x4, oui. Des 2x6, des plywood, c'est Canadian Tire,
oui. Il y a plein de ça. Quand tu parles de gants, là, Sylvain, justement, les fameux gants, là, c'est pas des gants usés. Là.
Ah, c'est pas des gants.
C'est 999.
Non, là. c'est neuf. Des bottes. J'ai trouvé des bottes à 250 $, Guy. Encore dans la boîte. À un moment donné, ouais, c'est fou, là. Je veux dire, des outils, en veux-tu, en v'là, des straps. L'hiver passé, j'ai trouvé des néons, des lumières LED. Écoute, j'ai tout ramassé ça. J'ai pris quelques photos. J'ai envoyé ça à mes amis à HSIB. Les gars sont venus. Ils ont dit, hey, justement, on cherchait ces lumières-là. Ben, il y en a plein. C'est carrément fou, là.
C'est vraiment spécial, je te dirais. Mais là, on va revenir un peu à ton histoire. Naturellement, tu as abordé un tout petit peu le sujet tantôt, puis je t'ai coupé parce que, écoutez ça.
Les aventures du grand Talbot. Entre deux mondes. En marge du monde. C'est juste quelques tournages que Sylvain a fait. Mais oui, posez-lui la question.
Et voilà, des tournages. Mais comment c'est arrivé là, ça, Sylvain? Comment tu as fait pour en arriver justement à des tournages? Parce que tu sais, écoute, qu'on le veuille ou pas, ça n'arrive pas tout seul, là.
Ça tombe pas du ciel. Ah non, je sais, mais je veux dire, ça ne date pas de ma venue à Baie James, là. Je veux dire, avant de venir à la Baie James, j'ai co-réalisé des émissions avec les aventures du Grand Talbot Musique Plus. Je veux dire, Denis Talbot, puis le réalisateur, quand j'étais consultant, il me disait tout le temps, « Ah, ben, on aura de la place pour ça. » Puis, ben, tu sais, si on recule dans les années 90, 95, 96, 97, le développement de l'écotourisme au Québec, les entreprises n'avaient pas les moyens de faire des publicités. Fait que je créais des émissions avec des petites capsules, puis de fil en aiguille, on a fait un paquet d'émissions, puis une émission qui a été une émission tournante, qui a été en Abitibi-Témiscamingue, avec mon ami puis mon mentor Michel Pageot. On avait fait le bal de la pourvoirie du bal bizarre sauvage, on avait fait le refuge, on avait été à la maison du moulon, on avait eu des commandites en avion, en hélicoptère. On a fait vraiment le tour de tout ça. Écoute, cette émission-là coûtait 200 $. Tout le monde a participé, Tourisme Americana, Tourisme Abitibi. C'était vraiment hyper, hyper génial. Et cette émission-là, on a fait ça le 27 mai 1997, la dernière fois que j'ai coupé ma barbe et mes cheveux.
Wow! La dernière fois.
Oui, wow. Puis, ben Michel, quand j'étais déjà ici, puis je veux dire, Michel, il tripait parce que dans ce temps-là, Michel Pageau, c'était vu un peu, j'étais un petit peu en marge, tu sais. Mais à un moment donné, à la fin de l'année, dans le temps que le maire Chérubin, Ulrich, avant qu'il soit maire, il était responsable de la Corporation de développement économique. Puis à un moment donné, au mois d'août, il nous a demandé, il dit « Hey, les gars, montez donc à Amos parce que non, écoutez, ça serait vraiment cool. Le ministre du Tourisme, c'était David Klich dans le temps. Il aimerait ça vous rencontrer. » Puis il y avait comment ça s'appelle, le député Gendron. Fait que là, on a monté. Puis, Michel, c'est un chum. Puis Michel, il a besoin de support. Ce qu'il fait, c'est intéressant, tu sais. Puis là, ben, il y avait eu des présentations. Et quand moi, j'étais rendu ici, ce qu'on parlait de faire à la base avec l'Abitibi-Témiscamingue, c'était d'ouvrir l'axe touristique entre Val-d'Or, Amos, Radisson, Chisasibi, les communautés, en passant par Matagami, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. C'était d'ouvrir l'axe touristique. C'est moi, quand je suis arrivé ici, c'était pour ça. Fait que de fil en aiguille, j'ai donné des entrevues dans plein d'émissions en France, en Belgique, mais là, ben ces émissions-là, j'avais pas nécessairement l'Internet dans ce temps-là. Fait que j'ai perdu un peu de contact de ça. Et de fil en aiguille, j'ai fait aussi avec Boucard Diouf, ça s'appelait Objectif Nord. Mm-hmm. Après Objectif Nord, ben à un moment donné, le caméraman, réalisateur, il était en Angleterre dans un reportage sur les gens qui faisaient des semaines médiévales. Puis il y avait un réalisateur, Nicolas Lévesque, de Canopée Média, qui était là. Puis là, à un moment donné, Nicolas, il dit « Hey, je travaille sur une web-série qui s'appelle Les Acteurs du Nord, j'en ai trois. Il y a un Russe qui fait du débroussaillage, il y a une madame qui fait de l'archéologie, c'est à la Côte-Nord, il y a un Inou avec son entreprise touristique, puis il m'en manque un. » Fait qu'il dit, tu sais, trouver du monde un peu weird, qui font des affaires hors normes. Fait que le gars, il part s'arrêter, oh, je l'ai ton gars. Il dit, Sylvain, il dit, écoute, on a tourné avec, il dit, tu vas voir, il dit, c'est une drôle de bébite. Puis là, ben, ils m'ont contacté, Canopé. Puis je leur ai dit, ben ouais, pas de trouble. On fait une conférence. Trois jours après, ils étaient ici. On a tourné Les Acteurs du Nord. Les Acteurs du Nord, ben, ils m'appellent l'ermite moderne. Ça me fait un petit peu rire, là. Ermite, peut-être au niveau religieux, parce que, tu sais, je veux dire, je suis peut-être un petit peu loin, mais je suis souvent plus au courant que la plupart de mes amis qui sont en ville, tu sais. Fait que de fil en aiguille, cette émission, cette web-série-là a sorti. Après ça, un dimanche matin, religieusement comme les dimanches matins, moi, c'est pas à l'église, c'est en avant de mon café, mon quadruple expresso en avant du poêle. À un moment donné, j'écoutais tout le temps l'émission de Franco Nouveau, Dessine-moi un dimanche. Là, ben, la fille parlait d'une web-série, Les Acteurs du Nord. Fait que là, blablabla, Franco dit, ouais, je trouve ça super intéressant, c'est vraiment cool. Fait que tout d'un coup, ben l'extrait qu'ils ont mis, c'était qui? Ben, c'était moi. Fait que là, suite, quand que je me suis entendu parler, je riais. J'étais abonné à leur Twitter. Je leur ai tweeté des images, des photos, pour leur dire, ben, je suis à l'écoute. Là, c'est moi, la drôle de bébite dans le fond des bois. Fait que la première affaire, le premier commentaire que j'ai trouvé ça drôle que Franco a dit, c'est Serge Bouchard sort de ce corps. Fait que moi, je suis parti à rire. Quelques jours après, j'ai été contacté par la recherchiste, Ania Kazi. Puis, j'ai commencé à faire des interventions avec Franco Nouveau. De fil en aiguille, ben, j'ai eu des demandes de reportages, de documentaires que j'ai refusés parce que les gens voulaient romancer ma vie. Puis moi, ben, elle est déjà assez compliquée. Je veux pas commencer à pervertir la vie que je veux. Ce que je vis, je le vis, puis c'est tout.
Mais, on a un petit clip parce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà baptisé de étant l'homme qui parle au loup. Et puis ça, ben la preuve, on l'a. Regardez bien ça.
Ça fait mal à l'alpha.
Et puis ça, ben, la caméra bougeait un peu. J'imagine que tu freelances ça, Sylvain.
Ben, tu vois, ça, c'est la femelle dominante, la mère à Frankie, la nouvelle femelle de la meute. Ah, c'est lors du tournage de Govan sur la publicité pour AAU Beijing. Puis, il se faisait 10 minutes qu'on était arrivé sur le site de Lou. Puis, elle est venue nous prendre contact. Elle s'est en allée en air ouverte. Puis, moi puis elle, on a parlé un petit bout. Mais un peu avant ça, elle hurlait. Puis, disait, ouais, mais là, on peut-tu l'approcher? Oui, oui, on va y aller bien doucement. Moi, j'étais avec mon téléphone cette fois-là. Puis, ce qui est vraiment drôle de tout ça, c'est que... À un moment donné, il dit, ouais, mais arrête pas d'hurler. Ouais, c'est parce que j'y ai pas répondu. Fait qu'à un moment donné, j'y ai répondu, puis là, on a échangé pendant de longues minutes. Après, elle nous a repassé à côté, puis vraiment, quand tu dis, là, en bas de 50 pieds, on était tourné d'autres séquences, puis en revenant, ben, il voulait avoir une séquence avec une patte. Fait que moi, je suis à genoux, ils sont en entour de moi. Là, je monte la patte, je me mets à parler, je dis, les gars, faites pas le saut, elle est en arrière de vous autres. Elle était 20 pieds en arrière de nous autres, on s'est tourné. Puis il l'a filmé, les gars capotaient, ils disaient, voyons donc. Ouais, mais je vis avec eux autres à tous les jours.
Ouais, c'est ça que j'aimerais.
C'est ça qui fait la différence.
C'est ça. Puis j'aimerais ça que tu nous racontes parce que tu m'as déjà dit à un moment donné. Puis ça, moi, ça m'avait épaté parce que tu n'avais pas ta motoneige. La motoneige était brisée dans ce temps-là. Tu n'avais pas ta deuxième. Puis un matin, après notre chronique qu'on avait eue pour la radio, simplement plein air, tu me dis, « Hey, Guy, il faut que je parte, faut que j'aille prendre une marche, une douzaine de kilomètres, 12-15 kilomètres en raquette pour aller taper la trail des loups. » J'ai fait comme, « Pardon? Mm-hmm. » Il m'a dit, « Oh oui, je fais ça. » Ça, raconte-nous un peu... Parce que finalement, il faut que tu sois dévoué. Tu sais, faire 12 ou 15 ou 20 kilomètres pour aller taper le chemin pour les loups.
Bien, c'est pas juste pour les loups. On utilise les mêmes chemins. Je veux dire, moi, j'ai tout cartographié au fil des années. Les chemins secondaires, les autoroutes du point A aller au point B que j'entretiens, que j'ai ébranché. Je passe avec ma motoneige. Puis tu sais, ils utilisent ça de génération en génération. Donc, moi, en début de saison, j'attends pas qu'il y ait 1 mètre de neige. Je vais le taper à pied en premier, je vais le taper en raquette, mais sauf que quand ma motoneige est brisée, il faut que je l'entretienne pareil, parce que si je vais aller chercher mes cartes mémoire du réseau de caméra, je veux pas avoir de neige jusqu'où ce qui fait frette, là. Fait que je dois aussi le faire. Et en le faisant, en étant habillé tout le temps pareil, avec une même routine, je fais partie de leur environnement autant l'été que l'hiver. Fait que s'ils ont le choix de marcher dans le sentier que j'ai entretenu, que j'entretiens, puis que je suis tout le temps là, ben ils vont le faire. Oui, ils vont aller à gauche, à droite pour la chasse. Mais c'est un échange. Donc, je fais partie de leur environnement. Puis cette journée-là, à mon retour, je les ai rencontrés. Ils étaient en avant du camp, les loups. Quand je passe une semaine à ne pas y aller, je vois des traces qui viennent en avant du camp. Je veux dire, j'ai une vidéo que je t'ai pas envoyée où un été est dans mon entrée. Dans mon entrée, je lui parle. Après, elle s'en va sur la route des digues, elle se roule à terre. Après, elle s'en va, elle passe par à côté d'un ours, puis elle s'en va au dépotoir. Je veux dire, c'est Michel qui m'a tout monté ça, Michel Pajot. Pourquoi il m'a tout le temps dit, écoute, comment veux-tu qu'ils te reconnaissent si tu es habillé différemment? Il te faut tout le temps les mêmes sortes de pantalons, mettre ton odeur d'humain, agir pareil. Puis quand tu vois qu'ils sont habitués, ben tu changes ta routine. Au lieu d'arriver par là, ben tu arrives de l'autre côté. Puis là, à un moment donné, ils s'attendent de te voir arriver là. Ben toi, tu arrives de l'autre côté. Ils font comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Ils sont curieux, là. Autant que nous autres, on peut l'être, tu sais.
C'est ça, ouais, non.
C'est un peu un jeu, tu sais. C'est la même chose avec les ours.
Oui, oui, puis on salue notre ami de Spirit qui est là. Bonsoir les boys, bonsoir mon cher Vincent. Et puis, on a une question qui est très pertinente de Pierre Graton. En été, comment conserves-tu tes aliments? Là, on a changé un peu de sujet, mais on va répondre aux questions.
Oui, on va répondre à cette question-là. Toute ma bouffe, moi, arrive par avion. C'est, la plupart du temps, c'est du congé et du frais. J'ai les boîtes que je vais laisser là-bas. Habituellement, j'ai des glacières.
Mais quand tu parles
donc, je vais me chercher une boîte de bouffe. Pardon?
Quand tu parles de là-bas, tu parles de où?
Ben, de l'aéroport, à 9 km. Donc, moi, l'été, soit que je vais faire du pouce, soit que je fais du pouce, ou je pars avec mon sac à dos, je vais chercher ma boîte de bouffe, j'en ai pour une semaine. Tu vois, en dessous du camp, j'ai mis des barils bleus. Ces barils bleus-là sont à l'ombre. Où est-ce que je mets des bouteilles d'eau glacée qui glace l'hiver? Donc, j'ai approximativement une température de frigo. En réalité, c'est une chambre froide, jusqu'à la fin du mois de juin. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous ici, là, on a de la neige jusqu'à la fin du mois de mai. Là. Ça arrive des fois qu'au mois de juillet, au mois de juin, on a de la neige. Fait que ça me permet d'avoir ça. Et là, justement, un de mes clients l'année passée, il m'a emmené un petit frigidaire qui marche propane 12 volts 110. Donc, ça et des glacières. Comme je dis tout le temps, tout est une question d'organisation. Nos grands-parents l'ont fait. Fait que ma grand-mère, Guy, elle me disait, tes parents t'ont donné des organes? Ben, organise-toi.
Oui, absolument. Et puis là, ben, très bonne question, merci. Et puis, n'oubliez pas, hein, tantôt, je fais tirer une carte Pro Nature de 25$ aux gens qui vont être là, qui vont avoir posé une question. Donc, 25$, ça va être pour vous. Là, on a des questions, c'est super le fun. Je n'arrive pas à poser des questions. Mais là, on va revenir au loup, Sylvain, et puis on va revenir avec un clip que tu m'as envoyé. Puis j'aimerais ça par la suite que tu nous le décrives. On va aller voir ça.
Vite, hein, Frankie. Vite, hein, Frankie.
Et voilà. Là, Frankie, moi, je sais c'est qui. Et puis, tu en as parlé brièvement.
Mais moi, je ne l'ai pas vu.
Tu ne l'as pas vu?
Ben, je n'ai pas c'est vu le clip, moi, Guy. Non.
Ah, OK. C'est celle où dans
ouais,
la neige...
c'est pas grave, décris-moi là.
Ouais, c'est celle que tu es dans la neige, à un moment donné, tu revires de bord, et Frankie est là, et puis que tu l'appelles.
Ah, oui. Oh, ouais, ça, c'est bon. J'avais des photographes, 4 photographes. Il y avait Hugues. Il y avait Nicolas, il y avait Jean-Simon Bégin qui était là, le photographe là, que vous voyez régulièrement sur les réseaux sociaux. Plus, il y avait un quatrième photographe, puis Frankie passait son temps à nous tourner en entour. Puis moi, ben quand je mets les photographes en appui, je pars en raquette, puis je vais faire mon tour de caméra parce que je sais fort bien qu'ils sont dans le secteur. Là, je savais qu'à nous tourner en entour, je dis au gars, écoutez, je vais essayer de la faire sortir en avant. Parce que si je vais dans telle direction, elle va sortir habituellement. Et cette fois-là, effectivement, elle était dans le sentier, elle me regardait. Fait que je suis parti tout doucement en raquette. Là, j'ai vu qu'elle rentrait en forêt, mais t'as pas vraiment sûr parce qu'il y avait plein de traces. À un moment donné, je continue. À un moment donné, elle a pris le bois. Fait que peut-être qu'elle a sorti devant les photographes ou elle a pris de l'autre côté. Je fais demi-tour, elle est assise en plein dans le sentier, à l'intersection. Elle me regarde. Fait que là, moi, je lui parle toujours. « Salut, ma belle Frankie, comment ça va? T'es donc bien belle. » Elle se lève, puis elle part dans l'autre sentier. Fait que là, je m'en viens tout doucement, puis j'arrête. Elle est encore assise, puis elle me regarde. Fait que là, je prends mon téléphone, pour faire une vidéo. Fait que si je dis ça au gars, que elle vient de venir prendre contact avec moi, il n'y a pas personne qui va me croire. Fait que là, ben effectivement, ce qu'elle voulait que je fasse, c'est de la suivre. Fait que là, je pouvais la suivre. J'ai suivi un petit bout, mais en fin de compte, elle nous a tourné en entour toute la journée. Tu sais, c'est eux vraiment... qui décident s'ils veulent venir prendre contact avec nous autres.
Oui, absolument. Et puis, naturellement, ben, tu vis des belles choses parce que cette année, ça faisait quand même un bon petit bout de temps que tu n'avais pas... tu n'avais pas vu tant de caribous que ça. Il y en a eu, là. Il y en a eu cette année du caribou.
Ah oui, non. Ça faisait plus de 2 ans que les caribous n'étaient pas dans le secteur. Écoute, j'ai pris des photos. Il devait avoir au moins 5 à 10 000 caribous dans le secteur. Puis en avant de nous, couchés dans la neige pendant des heures et des heures, il y avait 4-5 000 caribous. J'ai réussi à m'approcher tellement proche qu'à un moment donné, j'étais obligé de me reculer parce que avec le téléobjectif, je voyais juste les yeux. Puis je veux dire, j'avais du caribou partout alentour de moi. Mais je veux dire, tu sais, c'est la migration. Présentement, ils sont plus au sud. Mais là, avec le froid qui s'en vient, ils vont revenir parce qu'ils vont marcher la nuit. Donc, tu sais, c'est un privilège là, de vivre ça, là.
Oui, puis ça explique un peu à nos auditeurs la différence qu'il y a entre pour le caribou, entre les nuits chaudes et les nuits froides, le comportement. Et puis ensuite, on va passer, on a une autre question de M. Champagne. On va passer à votre
Oui.
question, M. Champagne, après ça. Mais c'est quoi, là, la grosse différence qu'il y a entre une nuit chaude pour le caribou ou les animaux en général et une nuit très froide, comme pour le caribou?
Ben, tu sais, premièrement, le caribou, lui-là, là, c'est pas compliqué. Il marche toute la nuit parce qu'il fait froid. Là, dans ce temps-ci, des nuits à moins 4, là, il n'a pas besoin de marcher. Il s'écrase dans un coin, il se colle tout, il se colle tout ensemble. Il se lève le matin, il marche un peu, il bouge pas beaucoup, un peu comme un ravage d'orignal. Puis, il bouffe. Ils vont changer de place. Ils n'ont pas à dépenser d'énergie. Puis là, on a plus d'un mètre de neige. Fait que, tu sais, s'il fait pas froid, puis t'as de la neige, puis, tu sais, ôter un mètre de neige avec des pattes, là, pour pouvoir aller manger de la petite moumousse de caribou, là, ça demande de l'énergie. Si, en plus, tu marches toute la nuit parce qu'il fait moins 40, ben, je veux dire, ils sont pas fous non plus. Je veux dire, ils relaxent. Tandis que là, avec les nuits froides qu'ils vont faire, ils vont marcher toute la nuit parce que prédateurs, parce qu'ils veulent se réchauffer. Aux premières lueurs du matin, ils se trouvent un spot, ils vont creuser, ils vont manger. Un coup qu'ils vont manger toute l'avant-midi, ils vont chercher un endroit bien dégagé, à l'abri du vent, s'il y a un peu de soleil ou de luminosité. Donc, mettons un lac, une petite baie ou un endroit où il n'y a pas trop d'arbres, ils vont se coucher là. Puis ils se couchent toutes, là, pas un, c'est tout le monde. Ils se couchent, ils se font chauffer. Quand que la luminosité se met à changer en fin d'après-midi, oups, ça se lève, pouf, 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 puis ça continue à marcher. Mais s'il ne fait pas froid, ils vont rester, ouais, ils vont marcher un peu, mais ils vont marcher en entour, comme les nuits fraîches qu'on a eues, qui est vraiment pas froid quand les caribous étaient ici en entour. Je veux dire, j'avais 4 000 caribous en entour du camp. J'étais me promener en raquette et il y avait des traces de caribous, puis il y avait des caribous partout. Ben, un coup qu'ils sont passés, ben, eux, ils se promènent. Puis c'est la même chose avec les animaux, là. Je veux dire, si t'as pas besoin de te faire geler le popotin le soir, tu trouves un spot, mais
C'est
quand
ça.
tu es obligé de marcher parce qu'il faut que tu te tiennes actif, parce qu'il fait moins 40, ça reste quand même des animaux, là.
C'est absolument. Écoute, Gare, on a une question. J'ai deux questions de M. Champagne. On va passer à la première qui, naturellement, c'est une question à propos des loups. Je ne sais pas si tu la vois, là, mais est-ce qu'ils montrent de l'agressivité parfois, les loups?
Jamais. Jamais. Jamais,
Explique.
jamais, 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 jamais. Ben,
Explique-nous pourquoi.
je veux dire, de vivre avec eux dans le respect, j'ai jamais de carabine. Ce qui pourrait arriver, ce qui est dangereux, c'est les loups solitaires. Les loups solitaires, c'est eux qui viennent manger mes chiens. Je veux dire, ils sont venus en snapper un à 4 heures du matin et ils l'ont pas mangé, mais les loups, ils étaient à peu près à 2 pieds de moi, puis je leur ai fait face, là. Mais oui, il aurait pu me sauter dessus, mais ça fait partie de la game. Mais les loups de la meute, ils sont à 20 pieds, 30 pieds de moi, ils me voient tous les jours habillés pareil, on a un certain respect entre eux autres, ils me connaissent, je suis toujours là, je fais partie de leur environnement. Je veux dire, ils n'en veulent pas de problème avec les humains. Je veux dire, jamais eu aucun signe d'agressivité. Mais au printemps, je ne vais pas les déranger avec les louveteaux, je leur laisse des endroits, des aires de repos que je vais régulièrement, qui sont habitués de me voir aller changer mes cartes mémoire. C'est tout est une question de respect. On a beaucoup à apprendre des loups. Si notre société se baserait sur le respect des loups dans une meute, ben, je te dirais qu'il y a plein du monde qui devrait lire et vivre un peu cette expérience-là, parce que jamais je me suis senti en danger. Je me suis déjà ramassé avec une douzaine de loups en entour de moi. Jamais je me suis senti, en danger. C'est ça, sûr c'est... que tu vois, à chaque orignal ou au caribou, le caribou, il est vidé, tu es en train de le vider, tu es à genoux, tu es en train de vider, tu es plein de sang. Je veux dire, lui, là, lui, ce qu'il veut, c'est le free lunch, c'est le lunch gratuit. Un coup que tu vas te lever de bout, ce que je peux faire aux gens qui ont bien, bien peur, j'ai fait mettre à genoux, là, puis je dis, regarde-moi, là. Regarde comment moi, je suis grand, là. Moi, je suis sur deux pattes, là. Je suis grand. L'ours ou le loup, il ne se voit pas comme gros.
Hmm.
Mais il y a des choses à ne pas faire. Tu sais, moi, je ne suis pas les loups. Je veux dire, moi, je les ignore. Fait qu'à un moment donné, à force de vivre avec eux, puis ils savent où ce que je suis, puis ils savent mon odeur, puis ils sont bien au fait d'où je vais faire pipi, puis quel est mon affût, où est-ce que je vais faire de la photo. Puis bien souvent, c'est un jeu. Comme moi, je joue avec eux autres, eux, mais jamais, même pas au niveau des ours, j'ai senti d'agressivité. Mais par contre, ça reste des animaux sauvages, c'est pas les zoos. Donc, tu as des procédures à faire pour avoir une interaction saine avec le sauvage.
Oui.
Moi, je me sens pas comme le dominant, là. Je veux dire, si j'agirais en cabochon, je serais mort, digéré, biodégradé, fait bien longtemps, là.
Oui, monsieur. Puis, il y a une autre question de monsieur Champagne, ici, là. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a plus de chasse? On parle du caribou. Tu nous as parlé, là, qu'il y avait des caribous partout, qu'il y avait. Qu'il y a beaucoup. Ça, là, beaucoup de chasseurs se demandent à cause que, finalement, la chasse, on le sait, a été abolie au nord. Ça a été interdit. On n'a plus de chasse au caribou. Est-ce que tu penses que c'est une erreur de certains biologistes, ou c'est purement que vraiment les troupeaux de caribous ont diminué, ou si c'est que les troupeaux de caribous se dirigent différemment de ce qu'ils se dirigeaient. Donc, le voie migratoire, au lieu d'être un troupeau de 10 000, ben là, ils sont en plus petits troupeaux. C'est dû à quoi? Qu'on revoit beaucoup de caribous parce que beaucoup de personnes nous indiquent qu'il y a comme un retour du caribou. Est-ce que c'est vrai, ça?
Ouais. Tu sais, Guy, on a parlé depuis 2 ans à plusieurs reprises le dossier caribou.
Ouais.
Moi, ce que je vois sur le terrain, si je recule dans les années comme 2003, en 2003, il y avait 25 à 30 000 caribous à l'entrée de Radisson, proche des centrales, couchés à terre. Ça a fait la page du Journal de Montréal. Il y en avait partout. Pourquoi? Parce qu'il y avait de moins en moins de bouffe dans le coin de LG3, LG4. Les biologistes, en 2007, 2008, 2009, commençaient à dire que la bouffe se faisait de plus en plus rare dans le secteur de LG3, LG4 et qu'effectivement, les caribous semblaient s'en revenir dans notre secteur parce que la bouffe était plus abondante. Ouais. Effectivement, on a eu des épisodes ici pendant des années et des années où les caribous étaient ici et il n'y en avait pratiquement plus dans le secteur de LG3, LG4. La migration a changé. C'est normal. C'est un troupeau de 200 000, 300 000, 400 000 individus. Je peux te dire une affaire, là, quand tu passes 5-10 000 caribous, tu as beau avoir 2 mètres, 3 mètres de neige, là, c'est rendu au sable, c'est rendu à la mousse de caribou. C'est sûr et certain que si les chasseurs partent en troupeau, puis courent après les caribous, comme moi, ce que j'ai vu, des tueries pendant des années et des années. Puis là, je ne parle pas de braconnage, je ne parle pas d'actes criminels et tout ça, là, parce que je ne veux pas commencer cette polémique-là. Là. Mais dites-vous une chose, là, quand tu as des motoneiges qui te courent après, bien, le caribou, là, à un moment donné, il n'est pas fou. Là. À un moment donné, quand les caribous, quand ils ont arrêté la chasse, c'était dans notre secteur. Nous, notre secteur était tellement petit qu'il y avait tous les chasseurs de la Trans-Taïga, plus la pourvoirie Moscox, qui est la pourvoirie de la famille Cox, ici dans le secteur, tout le monde était dans un petit territoire où ce qu'il n'y avait pas 50, on parle de 150, 200 skidous qui patrouillent de tous bords et de tous côtés. Les caribous ont fait quoi? Ils sont en allés en terre de catégorie 2 où ce qu'on ne pouvait pas aller chasser. Ben, tu sais, là, le caribou, là, s'il y en a 10 000, 20 000, 30 000, là, sont pas fous, là. Avec les machines qu'on a aujourd'hui, là, le bzz, 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 là, quand tu as 200, 300 skidou dans le bois, qui bzz, 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 partout, puis ça fait bang, 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 là, ben, j'en ai vu des tueries. Il y a de très bons chasseurs, mais il y a des morons. C'est comme dans n'importe quoi. Fait que le caribou s'est en allé de plus en plus vers Chisasibi. Ils ont fermé la chasse. Moi, te dire franchement, j'ai eu des arguments avec des biologistes qui ont fait des inventaires dans les avions. Eux disaient, ah, on voit pas beaucoup de petits, on voit pas de... Ben, dans l'avion, là, moi, ce que je vois sur le territoire, puis ce que la plupart des cris voient, c'est que le troupeau, au lieu d'avoir de méga gros troupeaux comme avant, c'est des petits troupeaux un petit peu partout sur le territoire. Comment peux-tu, en hélicoptère, couvrir un territoire de 600 km par 400 km pour faire un inventaire de caribou? Il faut que tu comptes les pattes, tu divises par deux pour dire comment il y a d'individus. Tu me dis que tu ne vois pas de petits, puis moi, à terre, qui fais de la photo, puis j'ai 5000 caribous en entour de moi, j'ai des photos à l'appui, je vois plein de petits bébés. L'erreur qu'ils ont faite, une année, c'était des femelles, il ne fallait pas tirer telle affaire. Bien, tous les chasseurs que je connais, qui viennent ici pratiquer une chasse, bien, ils tuaient des femelles avec des petits bébés. Fait que je ne le sais pas, là. Je ne suis pas biologiste, je suis juste un drôle d'animal au fond des bois. Mais moi, ce que je vois, ce que je vis d'année en année, me dit que le troupeau est divisé. Il y en a de plus en plus. On a des caribous qui ont resté proches de Chisasibi à Longue Pointe. Il y en a qui ont resté au lac Duncan. Il y en a, c'est à Trans-Taïga, qui n'ont pas migré. Donc, il y a un changement qui est en train de se faire avec du caribou des bois. Fait que c'est sûr et certain que si on a une gang de morons qui font de la pression, ben le troupeau, là, au lieu d'avoir 25 000 individus, on a peut-être 4 troupeaux de 5 000. Fait que, tu sais, personnellement, c'est dur à dire. Sauf que le syndrome de la pensée magique de dire « Ah, ben oui, là, parce qu'il y en a beaucoup, ça l'a augmenté. » C'est dur de dire que ça l'a augmenté. Oui, probablement, techniquement, mais c'est sur du long terme qu'on va le voir.
Ouais.
Tu sais,
ouais.
Quand la chasse au caribou a fermé, on commençait à dire « Ah, on va ouvrir la chasse au loup. » Parce que le loup, il tue tous les animaux. Le loup, là, il est là pour faire le ménage. Il mange les faibles, il mange les vieux, il est là pour faire le ménage. Ils sont aperçus ouais. qu'en fin de compte, c'était l'ours noir qui mangeait une fois de temps en temps les petits bébés. Mais là, ça veut-tu dire qu'il faut qu'on tue tous les ours noirs? Je veux dire, tu sais, l'humain,
c'est ça,
l'humain fait partie de cette réalité-là. C'est pas lui qui domine.
Non, c'est ça. C'est ça. Et puis, Dave Champagne nous dit que c'est tellement vrai. Puis, c'est ça. On a tout entendu. Hein? On a tous entendu aussi le fait du manque de nourriture. Mais ça, moi, c'est une théorie. C'est une théorie. Mais je te dirais que, écoute, des troupeaux de caribous sont pas là depuis hier. Ils sont là depuis des millénaires. Donc, ça ferait longtemps qu'il aurait manqué de nourriture. Ça ferait longtemps qu'on aurait eu une extinction totale parce qu'il n'y aurait pas eu de bouffe. Est-ce que ça affecte? Oui. Est-ce que c'est par cycle? J'ai comme une impression aussi que ça peut l'être. Mais l'humain est le pire des prédateurs, je pense. Comme tu le dis.
Ah ouais.
C'est ça qui
ouais,
fait.
Oui, parce que Guy, les dernières années de chasse, j'ai vu tellement de braconnage. C'est hallucinant. À 3 heures du matin, là, à 3 heures du matin ici, là, bang, 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 sur la route de la baie James, là, j'ai même déjà intercepté, parce que moi, j'ai un balayeur de fréquence. Là. À un moment donné, en plein milieu de la nuit, mon balayeur de fréquence, j'entendais les gars, « Ouais, j'étais à tel kilomètre, là. Ouais, j'étais en avant, là, au 581, là. Ouais, là, il y a des caribous sur le lac, là. » Puis on est en plein milieu de la nuit. Je prends ma flèche, je prends mon walkie-talkie, je programme la fréquence radio. Puis je dis, hey, le cabochon en avant de mon camp. Je dis, là, je viens d'appeler le garde-chasse, là. Vous êtes là. Moi, votre place, quand il serait votre camp. Mais le temps que là, je t'appelle le SOS braconnage, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Fait que tu as le phénomène de braconnage, tu as le phénomène de prédation, tu as le phénomène climatique. Je pense que c'est de laisser la nature s'arranger avec ça. Puis, je vais dire, tu sais, Les minières, oui, dans certains endroits où ils se reproduisent dans le nord, ça a un impact, ça a été vérifié. Je veux dire, tu vois, quand ils ont fait East Main, l'eau qui arrivait vers la rivière Sakami, ben l'eau a passé par-dessus les glaces. Donc, au lieu de passer là, il contournait le changement climatique. Il y a eu des années, Guy, là, dans les dernières années de chasse, là, où il n'y avait même pas de neige au mois de décembre, dans le temps de Noël. Là.
Mm-hmm. Ouais,
les gars chassaient en quatre roues. Fait que tu sais, t'as le changement climatique, faut pas l'oublier, ça. Puis tu sais, ils disent dans les médias là, dernièrement, là, on est rendu quoi, à la troisième vague de COVID? Bien, la quatrième vague, là, la vague climatique, là, préparez-vous, gang, là, parce que.
C'est, ouais, on veut pas être défaitiste.
Ce sera pas drôle.
C'est
non, mais si tu regardes la nature, si tu regardes les effets de la nature, Guy, il y a deux ans, on n'avait pas de lagopèdes dans le coin. Les lagopèdes étaient où? Ils étaient dans le coin d'Amos. Là, il y en a en Abitibi, du lagopède. Je veux dire, c'est-tu normal que le caribou descende de plus en plus vers le sud? Il y a eu le feu en 2013 qui a fait une barrière physique, mais le caribou, il s'en allait vers Matagami.
C'est ça.
Ouais, hey, des bœufs musqués, on a des bœufs musqués qui ont été vus proches du site, là, quoi, deux ans? Fait que, tu sais, si la tourterelle triste s'en vient dans mon coin de pays, puis les oiseaux montent de plus en plus vers le nord, puis les aigles, ouais. les aigles à tête blanche sont rendus dans le secteur ici en quantité industrielle, puis t'as de plus en plus des grues du Canada, puis t'as de plus en plus d'animaux qui descendent vers le sud. Cette année, j'ai jamais vu tant de pistes de lièvre, tant de pistes de lagopèdes, puis de perdrix grises, puis tout ce que tu veux. Je veux dire, on est dans un pic, mais...
Ouais. Vie, en parlant de perdrix grises, t'en as une belle là, que t'avais filmée à un moment donné. Là. Écoute, il y a tellement, comme tu le dis, tu sais, il y a tellement de choses qu'on ne réalise pas vraiment. L'être humain, on veut subvenir à nos besoins, mais est-ce qu'on le fait toujours bien? Ça, c'est une autre chose, c'est un autre forum, on pourra en discuter autrement. Mais si on vient un peu à toi, ta façon de vivre, ces choses-là, là, à un moment donné, on le sait, tu es arrivé au camp des pins, puis là, tu as développé un amour soudain pour ce qu'on appelle le Matsutake. Là, on change un peu de sujet, là, mais le Matsutake, ça, là, c'est de quoi qui te tient à cœur.
Ben ouais, parce que premièrement, c'est une ressource qui peut être inépuisable. C'est une ressource qui est là depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années. C'est une ressource qui peut favoriser le développement touristique. C'est une ressource qui peut amener une création d'emplois dans le temps de la saison des champignons. Puis toi, le Matsutake, ça fait 21-22 ans que je le suis. À force de guider des gens, à un moment donné, je me suis mis à guider des mycologues. Puis, ils m'ont montré les différentes espèces de champignons. Puis, on est arrivé, puis on a trouvé ce champignon-là. Puis, les gens me disaient, « Ah, ça, c'est un Matsutake. Faites des recherches, blablabla, au niveau japonais. » Puis, à toutes les fois que je parlais aux différentes instances, sans vouloir les nommer, ils me disaient, « Ben là, on n'a pas de Matsutake dans le Nord. » À un moment donné, je me suis aperçu que oui, ils savaient qu'il y en avait du Matsutake, mais... Et l'homme étant l'homme, ils ont voulu un petit peu en profiter au détriment de tout le monde. Fait que moi, ben, je travaille avec la communauté de Chichibi-Nouéminji. On a développé une signature spectrale avec des intervenants comme Bioptal, l'Université de Toronto, plus d'autres intervenants. On a fait l'inventaire parce qu'avant de penser à la commercialisation ou à une cueillette de manière commerciale, il faut savoir, premièrement, est-ce que la cueillette commerciale, on la fait comme du monde? Est-ce que ça va avoir un impact sur la ressource? Il faut savoir aussi comment est-ce que le Matsutake, où ils sont, il faut trouver les manières. Parce que j'ai développé au fil des années, c'est un peu le travail. Moi, je fais le travail des porcs avec les truffes. Donc, j'ai développé des techniques. J'ai cartographié. Je mets 25 000 à 30 000 bâtons de particules par année. J'ai tout cartographié ça pour arriver avec des cartes de cueilleurs et aussi de calculer... dans le début de la saison, les cueillettes, dire, bon, ben là, t'as tant de champignons qui sont contaminés par des vers, des larves et tout ce que tu veux, pour arriver à prévoir des éclosions de qualité maximale pour rentrer sur des marchés comme le marché japonais. Fait que c'est des choses que j'ai faites. Sauf que l'homme étant l'homme, ben eux, ce qu'ils veulent, c'est la ressource tout de suite. Puis, ben, ça a mal viré parce qu'on a des cueilleurs du Sud qui viennent s'en mettre plein les poches. Puis moi, ben, la ressource, je la protège. C'est sûr qu'il y a bien des gens qui n'aiment pas ça, mais ça, j'en ai rien à foutre parce que moi, je vis dans le Nord et je me dis, si on veut commercialiser cette ressource-là, il faut le faire de manière intelligente parce que faut pas faire comme avec l'ail des bois, tout démolir, parce que c'est le Matsutake vit en symbiose avec le pain. Pendant l'été, le mycélium dans le sol va défaire les éléments, va nourrir ton pain toute la saison d'été. En fin de juillet, on va avoir des nuits froides. Ces nuits froides-là vont dire au pain, « Oh, l'hiver s'en vient! » Donc, le pain va doucement envoyer sa sève élaborée aux racines et l'échange qui va se faire avec le mycélium va créer le champignon qu'en fin de compte, c'est un fruit. Fait que c'est un échange, sauf que il est relié à des micro-racines. Si tu ne fais pas attention dans la technique de cueillette, qui est un peu une technique de cueillette japonaise aménagée, ben, tu vas détruire la ressource parce que si tu laisses les racines sécher, ben, les racines ne pourront plus nourrir le mycélium. Puis, tu peux stopper les éclosions et toutes sortes de choses un peu techniques que j'ai développées depuis, je te dirais, ta parouette 2005-2006. Mais avant ça, je le suivais par plaisir d'interprétation. Sauf que, moi, c'est une chose que j'adore. Puis, tu sais, quand que, tu sais, tout à l'heure, on parlait des émissions de télévision, quand Marche du Monde, ils sont venus avec Samiane, on était faire un bon bout sur le Matsutake, puis écoute, on a trippé. Pourquoi? Parce que tu vois une petite craque tout petite dans le sol ou un petit bump, là, je lui disais, hey, il y a un champignon. Eh, voyons donc, ça se peut pas. Mets-toi à genoux, t'enlèves le sable, tu t'aperçois, t'enlèves trois pouces de sable, puis tu vois une petite tête blanche, puis en fin de compte, tu le sors, puis il est gros de même. Tu fais comme, ben, voyons donc, ben oui, mais c'est le plaisir de la chasse aux champignons.
Absolument.
Et commercialisation, c'est une chose.
Ouais. Vas-y, c'est vrai.
Mais tu sais, la commercialisation, c'est une chose. Sauf que, je veux dire, commercialiser le champignon, oui. Mais tu sais, si tu le lis à la terre, à la culture cri, à la culture nordique, aux animaux, aux plantes, aux plantes médicinales, aux bleuets, aux canneberges, à chicouté, à tous ces trucs-là, les canaux, les activités de plein air, les ciels nordiques. Je veux dire, c'est des activités en soi pour une découverte. Puis j'ai développé, au lieu d'être du mycotourisme, j'ai développé un produit qui s'appelle du matsutourisme, où les gens vont pouvoir venir coucher dans des abris traditionnels, faire un trip, aller cueillir des champignons, en manger et en ramener un peu avec un certain contrôle dans le respect de l'environnement. Hey. Je veux dire, c'est une situation gagnante pour tout le monde.
Oui, absolument. Puis, Anna, une question que j'avais pour toi, moi, Sylvain. À un moment donné, on a naturellement entendu parler de nos amis du Japon. Je pense que tu as eu de la visite du consul général du Japon.
Oui, ben tu vois, à force de travailler sur la filière Matsutake avec justement les différents intervenants japonais, tu as une organisation qui est Québec-Japon. En 2019, j'ai reçu le consul général du Japon qui est venu faire un tour justement, qui a été reçu par la famille Cox. C'est moi qui a eu le plaisir de le guider. Je l'ai emmené dans une parcelle, lui montrer les différents champignons, lui donner une formation. Il a trouvé ses premiers Matsutake. Les deux premiers Matsutake qu'ils ont trouvé, j'ai déclaré cet endroit-là parcelle japonaise. On a eu ben du plaisir. Ça a été vraiment cool pour justement essayer de faire le lien avec le Japon et la nation Cri, Chichasibi et Douiminji. Parce que 2 ans auparavant, le consul général du Japon avait invité le service aux entreprises de Chichasibi, qui est porteur du dossier Matsutake, avec qui je travaille. Ils ont été invités au Japon à aller voir l'encan des Matsutake, tout ce qui a rapport avec l'agriculture, parce qu'eux ont la technologie d'agriculture un petit peu nordique qui pourrait un peu s'appliquer à Chichasibi. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là parce que je ne suis pas porteur du dossier. Mais le dossier Matsutake, ben, ça a été un peu ça. Parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'on a comme qualité. On a fait des tests. Cette année, on a envoyé des champignons à cause de la COVID. Les gens n'ont pas pu venir, les diplomates et tous les autres intervenants. Et je veux dire, on est à deux gènes près selon les tests ADN du Matsutake japonais. Puis une chose cocasse, Guy, on est dans le tipi. On est avec Bertie Wapache qui s'occupait du dossier, avec des gens de la famille, des aînés. Puis là, mon Bertie est là, puis fait cuire des steaks pendant que madame est en train de faire un ragoût d'orignal. Puis là, il coupe du matsutake, puis il met ça dans une poêlonne avec du beurre, puis la grosse affaire. Puis
consulte une sylvain. Dans la poêlonne, il y a pour plus que 1 500 $ de matsutake au Japon. Il dit, je regarde ça, là, puis ça me fait calmer.
Mais c'est ça. Fait que, oui, la commercialisation pour le futur, pour les futures générations. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un champignon qui est dur, donc il est fragile à chaleur. S'il y a chaud, il vieillit prématurément. La chaîne de froid, la traçabilité, c'est ce que je fais depuis toutes ces années pour éventuellement aller sur le marché. Mais moi, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour les générations qui s'en viennent. C'est sûr que l'homme blanc a vite de dollars. Ça ne l'intéresse pas, lui. C'est ce que je dis souvent, TTT, tout de suite, tabarnak. Donc, ces gens-là, ils m'aiment pas bien, moi, ça me dérange pas bien. Moi, je le fais pour les futures générations. Puis oui, le développement de la filière Matsutake avec le Japon, mais le tourisme va emmener des gens à Radisson, va emmener des gens dans HSCB, va emmener des gens à Wiminji, fait que va aider au développement du triangle touristique qu'il y a avec Chasibi, Radisson et Wiminji, si à un moment donné, sur le côté non autochtone, les gens se réveillent. Parce que le Nord, pour tout de suite, est pensé par les gens du Sud. Le Nord, c'est souvent, les mines, la foresterie, ces trucs-là. Non. Le potentiel de développement touristique, moi, je dis souvent à blague, je vis dans le plus gros terrain de jeu pour aventuriers au monde.
Absolument. Sous-exploité, mais il faut faire. Il y a les deux côtés. Hein? On peut dire sous ou sur. Les deux S sont pas vraiment bons. Là.
Ben non, puis tu sais, je veux dire, avec la pandémie, ce que ça a fait réaliser aux gens, puis ça, je donne bien gros des consultations à des entreprises à ce niveau-là. J'ai regardé là, le tourisme de troupeau là, de 8, 12, 15, puis 20, puis 50 personnes, là, oubliez ça, vous n'aurez plus de ça. Là. Ça va être du touriste à hauteur d'humain. Moi, les gens, cette année, ce qu'ils voulaient faire, là, c'était qu'ils voulaient revenir regarder pousser un arbre. Ils voulaient regarder une vague s'échouer sur le rivage. Ils voulaient regarder un brin de gazon. Pourquoi? Parce que tu étais confiné. Tu étais privé de cette nature-là. Tu étais privé de contact. Déjà là, que juste le contact physique là, amène beaucoup d'anxiété chez l'humain. Ben, je vais te dire, là, t'asseoir à côté d'un arbre puis d'y parler un peu là, après la pandémie, c'est un peu ce que les gens cherchaient de plus en plus. Puis oubliez ça, le tourisme de troupeau. Puis moi, ici, là, juste pour te dire, au niveau photo, c'est quatre personnes max. J'en veux pas 5-6. Ouais. Puis je peux pas aller dans le bois à 12 personnes. Là.
Ça, puis retiens ça là, Sylvain. On va aller sur répondre à une question de notre ami Michel. Michel nous a posé une question tantôt. Y a-t-il des harfangs des neiges au nord?
Bien, j'en vois passer au printemps par l'automne, mais rester ici, non, parce qu'ils vont nicher en haut. Puis ils passent l'été dans votre coin, comme mettons en banlieue de Montréal, un peu en Abitibi, un peu partout. C'est rare. Je vais les voir quand ils vont migrer, autant vers le sud ou autant vers le nord. Comme je te dirais, avril, mai, je vais en voir monter vers le nord. Puis un petit peu avant les neiges, je vais les voir descendre en bas. Mais ils sont juste de passage. Là.
Bon passage, oui. Écoute, Sylvain.
Ça peut arriver, j'en vois, mais de là à dire, faire un safari photo au harfang des neiges, non.
Non, hein, y a pas de, tu ne pourrais pas faire ça. Mais justement, on va en revenir à ça. Là, j'avais promis une carte cadeau de 25 $ à quelqu'un qui nous aurait posé une question. Et puis, tantôt, quand que je t'ai mis plein écran, j'ai pointé sur une des questions et ça a tombé sur M. Michel Champagne. Donc, pas Michel, Dave Champagne. Donc, Dave, si tu peux aller sur le Messenger de Guy Martin, qui est moi, et m'envoyer tes coordonnées pour que je t'envoie la carte. Hein, la carte, là, j'aimerais communiquer avec toi pour t'envoyer cette carte cadeau de 25 $ chez Pro Nature. Donc, ça, revenez parce qu'il va en avoir souvent. Là, dans, il va y avoir toutes sortes de petites choses comme ça qui vont se passer chez nous. J'ai simplement plein air. Donc, M. Champagne, Dave Champagne, s'il vous plaît, communiquez avec moi. Sylvain, en terminant, parce que là, ça fait quand même 1 h 11 qu'on est là. Toi, pandémie est là, naturellement. On n'a pas le choix. Là, on s'en va probablement vers le mieux. On sait comment tu organises. Ben, je sais, mais les gens ne savent pas. Explique-nous un peu ce que tu fais présentement pour naturellement pourvoir à tes besoins. Parce qu'on sait que tu es photographe animalier, mais tu donnes aussi des ateliers à l'extérieur. Tu peux aussi donner de l'enseignement. Tu peux. Écoute, il y a tellement de belles choses que tu fais. À ce moment-là, j'aimerais ça que tu nous l'expliques, Sylvain.
Bien, c'est sûr que mon revenu premier, c'est de guider les photographes, guider les gens en forêt. Mais avec la COVID, oublie ça, cette année, ça a été... J'ai fait des belles rencontres, mais je veux dire, c'est pas ça qui remplit le compte de banque. Sauf que, je veux dire, je vends des photos, je donne des conférences, je fais des conférences dans les écoles, mais là, présentement, avec la COVID, je peux plus faire des conférences dans les classes. Donc, écoute, je fais de la consultation, je fais un petit peu de tout. J'essaie de rouler au minimum pour pouvoir, justement, pas manquer de rien, parce que faut pas se le cacher, l'essence, c'est une pièce, c'est une pièce et quelque chose par litre. Je te dirais, je pense que c'est 1,50 ou une chose comme ça. Mais quand même, j'ai plein de supporters. Ça fait que, tu sais, je touche un peu à tout. Je fais des sites web, je fais du graphisme, je fais du montage vidéo. Je fais de la consultation. Mais je veux dire, tu sais, c'est dur pour moi, c'est dur pour tout le monde. Moi, la chance que j'ai, c'est que je peux réduire au minimum ma consommation. Fait que c'est un peu ça, mais tu vois, j'ai implanté un système COVID cette année qui m'a permis d'avoir des gens. Là, pour tout de suite, vu qu'on est rouge partout, je peux pas recevoir de gens. Aussitôt que ça se débloque, j'ai des gens qui sont prévus pour le mois de mars, mars, avril, mai, puis l'été prochain, j'ai encore plein de places. Si les gens veulent venir vivre l'expérience, ben qu'ils se gênent pas, prendre contact avec moi, www.animalparquin.info ou juste une petite recherche. Puis, ben, je vais faire un grand plaisir de les amener, leur faire découvrir le territoire. Puis, ben, écoutez, souvent, comme je dis souvent, je suis très, très flexible au niveau du produit. Ouais, ton coucou, ta barouette. Ça, c'est ta pointe de pizza qui t'appelle, Vogue? Ah, ben, je te dis.
Ça, c'est
sa pointe, ça ne vous le dira pas, mais c'est sa pointe de pizza, là, à c'est ça, il est 8 h. Pointe de pizza avant de se coucher.
Ouais, M. Champagne qui m'a probablement envoyé ses coordonnées pour la carte. Oui, c'est ça, Sylvain. Naturellement, on le sait que l'été passé a été un peu plus difficile parce que, justement, sur la route de la baie James a été ouverte à un moment donné, mais là, les aires de repos ne l'étaient pas. Les gens campaient un peu partout. Ça, il y a des choses qui auraient pu être dangereuses à ce moment-là. Mais tu avais mis en place quand même un protocole pour recevoir des gens. Et naturellement, on sait qu'au niveau secouriste, parce que toi, quand tu organises une sortie en plein bois, c'est pas organisé comme ça sur le coin du chapeau. C'est très bien organisé. Puis j'aimerais que tu nous expliques en terminant, Sylvain, comment tu organises ça?
Ben, juste te donner un exemple. J'ai 25 ans d'expérience en recherche sauvetage. J'ai géré jusqu'à 150 bénévoles. On a fait Oka, Saint-Amable, feu de pneus. On a fait plein de gros événements. Écoute, moi, toutes mes sorties, que je fais régulièrement, que ce soit avec des photographes ou avec des gens, ont des protocoles d'encadrement sécuritaire avec un protocole, ce qu'on appelle plan d'urgence, ou qui sont déposés à Centrale 911, où les différents intervenants sont au courant. Donc, si j'ai à appeler puis je dis j'ai besoin de l'hélicoptère parce qu'on a un problème cardiaque, puis ben j'ai besoin de l'hélico au point Alpha 2. Ils ont déjà toutes les cartes avec le positionnement GPS. J'ai mon système de radio. Puis s'il y a un plan d'évacuation, c'est la même chose. C'est toujours déposé à Centrale 911. Quand j'ai des groupes spéciaux, je vais faire un plan d'encadrement spécialement pour des groupes VIP pour justement maximiser justement le côté sécuritaire, parce qu'il ne faut pas se le cacher, on est loin. Radisson ne peuvent pas faire de miracle. Je veux dire, on a des médecins, on a des infirmières, on n'a pas de salle de traumatologie. Donc, pour la sécurité de tout le monde, d'avoir un plan d'encadrement, des plans d'urgence, où ce que quand que je dis l'ambulance, je la veux à tel point, bien qu'il l'ait déjà, puis qu'il soit déjà capable de me parler, qu'il est en forêt. J'ai tout mon équipement, mes brancards, mes planches dorsales, mes équipements de trauma, j'en ai en forêt. Je veux dire, il n'y en a pas de problème. Sauf que souvent, ce que les gens ne pensent pas, c'est quand tu es dans le sud, ta structure de sécurité ou d'encadrement, ben, tu fais 911, la cavalerie débarque. Sinon, ici, il faut que tu crées une structure d'encadrement sécuritaire pour justement, après, mettre le côté plus activité ou expérience. Mais quand ta structure sécuritaire est mise en place, ben, quand tu appelles, ils sont au courant, doutés, avec tant de monde. Puis quand j'ai des groupes bien spécifiques, comme des groupes de Chinois, ben j'avise tous les intervenants, la centrale 911, la police, l'hôpital, l'hélicoptère, les pompiers, que telle date à telle date, je suis dans tel secteur avec 12 personnes, puis j'ai déjà le profil médical des gens. C'est ce qui fait la différence. À date, je n'ai pas eu de problème, mais vaut mieux se préparer en conséquence, parce que quand même, on est loin.
Effectivement, vaut mieux être en sécurité. Et puis, comme on peut le voir avec Sylvain, on l'est en sécurité parce que c'est une personne qui sait ce qu'il fait. Et là, on a Good Day Boys, super intéressant. Mon ami Marc Prince était là. Notre ami Marc qu'on connaît, Marc est un bushman qui fait du bushcraft. On va l'avoir d'ailleurs bientôt. Bientôt, il va être ici lui aussi. Tous nos chroniqueurs vont y passer. On va jaser ensemble, c'est fort intéressant. Mais oui, c'est ça, Sylvain, pour en revenir au niveau de la sécurité. Pour toi, c'est primordial, puis c'est le fun parce que les gens qui sont là se sentent en sécurité aussi, de par ton organisation, ton sens de l'organisation, naturellement, parce qu'on le voit, puis les gens qui rentrent en contact avec toi, directement, sont en sécurité. Ils savent par toutes les questions que tu leur poses, tout ce que tu leur demandes, et... je t'ai déjà vu, puis ça, tu me l'as dit, refuser des gens parce que tu ne te sentais pas prêt à venir chez toi, là, à aller dans le Nord. Là. Tu leur as dit de ne pas s'aventurer.
Absolument. Écoute, non, tu ne peux pas. Je veux dire, tu ne peux pas. Quand je pars avec des photographes, je vais te donner un exemple. Je pars avec des photographes parce que des fois, entre mon camp... Puis différentes aires de repos, je rencontre 20 ours. Ben, si tu as quelqu'un qui n'est pas prêt mentalement, puis qu'il a peur des ours, puis il a peur des loups, puis il a peur de ci, puis il a peur de ça, puis qu'il est hyper angoissé, puis tu sais fort bien que de l'amener en forêt va créer plus de problèmes que d'autres choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que les animaux, ils sentent ça, là, hein. Les animaux, ils sentent ça, notre stress, notre anxiété. Fait que quelqu'un qui est hyper anxieux, qui ne file pas, là, il n'en verra pas de loup. Puis l'ours, quand il va le voir, l'ours va pas laisser son camp, il va partir à courir. Donc, tu sais, moi, là, comme je dis souvent à la blague, c'est beau faire de l'argent, Mais tu as des gens qui sont mentalement et physiquement pas prêts pour venir vivre ce type d'expérience. C'est plate, mais j'aime autant les refuser que leur faire vivre une mauvaise expérience. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de tout. J'en ai eu des gens, là, écoute, Guy, ça craquait dans le bois, puis ils attendaient des feuilles, crin, 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 crin. Puis à un moment donné, ils pensaient que c'était un ours, mais en fin de compte, c'était un petit écureuil qui sort, pour le
Ouais.
dire. Mais la
Ouais.
personne était blanche, puis les sueurs, ben là, c'était pas vraiment le goût qu'elle te pète une crise de cœur.
Ouais, puis non, c'est pas le temps. Allez, écoute, Sylvain, toute une expérience, puis c'est, on le sait qu'on va revenir, là, ça c'est sûr et certain. Mais moi, je tiens à te remercier, puis c'est super intéressant. Et puis là, on va quitter avec des belles images que tu as tournées, justement. Et puis, tu peux les décrire parce qu'il n'y a pas de son. Donc, tu pourras les décrire si tu les vois, là. Je ne sais pas avec le réseau faiblit, là, mais regarde bien ça. Regardez bien ça, tout le monde. Ça, c'est, je pense que c'est la. Est-ce que tu les vois, Sylvain?
Non, moi je vois rien. Je ne sais pas si les gens. Ah ouais. Ça, c'est la mère de Frankie. La femelle dominante où ce que qui miaulait quand j'ai tourné la bidule avec Govan. Elle, écoute, je rentrais en forêt, elle venait tout de suite me voir. Ça, c'était vraiment une machine, cette femelle-là, là, super gentille. Écoute, j'ai reçu Annie Durocher avec ses trois fils pour la balado. Puis ses gars, ils n'arrêtaient pas de dire hey, man, on va voir des loups, on va voir des loups, on va voir des loups. Là, ils disaient tch, 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 tch. Hey, non, fais-toi en pas, Annie, tu vas voir. Pouf, en disant ça, elle sort du bois, s'assied devant nous autres, là, les jeunes, la face. Ben là, c'est le temps, les gars, parlez-y, là, là. Là, il n'y a pas personne qui parlait. Elle les a regardés en virant de bord pour rentrer dans le bois.
Ah,
Fait que,
c'est
tu
vraiment
sais, ça, c'est vraiment la
génial.
mère de Frankie.
Oui.
C'est vraiment. Mais plein de contacts, je veux dire. Tu sais,
Oui.
j'ai plein de.
Des gros ours de même aussi, t'en as chez toi. Ça, c'est pas un qui a été pris chez toi, mais il y en a de ça, là. T'as du beau gros ours aussi.
Oh oui, ben écoute, mon gros gras, il y a à la fin de la saison, là, il y a la bedaine qui frotte à terre. Il y a de la misère à marcher. Tu sais.
C'est assez
Qu'est-ce
spécial.
qu'il fait? C'est qu'il vient au camp, il vient au camp, puis il flippe mes barils de poubelle. Là, les chiens jappent, je sors avec la lumière frontale, il me regarde à côté du baril, puis il en flippe un autre. Il évite pas, il n'y a rien de bouffe, c'est juste du plastique ou du métal. Puis en voulant dire, hey, gars, je te cite, là, il se couche là. Puis le lendemain matin, bien, il reflippe deux, trois barils, les chiens jappent, je sors, puis je le vois, il s'en retourne au dépotoir. C'est le privilège de vivre. C'est le privilège de vivre en harmonie avec eux autres, là.
Oui, absolument. Hey, écoute, Sylvain, merci encore une fois. Et puis, en quittant, ben, regardez bien ceci. Un mot, de la fin.
Es-tu abonné à notre page Simplement plein air? Si tu ne l'es pas, moi, je le ferai. Parmi les 500 premiers abonnés, on va faire tirer des prix, des beaux prix. Je vous donne une idée. Yeti, connaissez-vous ça? Ouais. Pro Nature, vous connaissez? Ouais. Roger Larivière, mycologue, son bouquin, dernier bouquin. Oui, les champignons de la forêt boréale et aussi les plantes de la forêt boréale. Donc, ça, c'est juste, on fait juste effleurer la surface, là. Il va y avoir beaucoup d'autres prix. Donc, abonnez-vous parce que ça vaut la peine, là.
Et voilà, mon ami Sylvain, ben, merci beaucoup. Et puis moi, je dis à tout le monde, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Abonnez-vous au canal YouTube de Simplement plein air. C'est une façon de nous encourager. C'est une façon, disons-le, on ne vous demande pas de sous, on ne vous demande pas de nous supporter. On vous demande seulement de vous abonner. vous abonner, c'est nous encourager. Parce que vous savez que, bon, rendu à 1000, je ne m'en cache pas, c'est un shameless plug, rendu à 1000, bon, ben là, on commence à monnayer notre canal. Ça nous donne un peu de sous, ça nous permet de réussir à aller chercher de l'équipement. Je suis travailleur autonome, donc oui, on a un Patreon, oui, vous pouvez, il y a un PayPal Me, mais ce n'est pas ça que je vous demande. Aujourd'hui, là, moi, je vous dis, abonnez-vous à notre canal, ça va nous aider, ça nous aide beaucoup, et on redonne. On n'est pas des gens qui veulent juste prendre. On redonne. La preuve à 500 abonnés, ben, au lieu de faire un tirage, comme il y en a qui font 7-8 000 $ de prix, non. Oui, il va peut-être avoir 7-8 000, mais divisé en tout le monde. Si on a 50 prix, il va avoir 50 personnes qui vont avoir des prix. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne chez Simplement Plein Air. On fonctionne avec notre cœur, on fonctionne avec notre âme, notre passion. On veut vous donner et on veut vous redonner. Donc, merci d'avoir été là. N'oubliez pas, c'est là, là. Il y a un petit endroit, c'est marqué abonné, puis une petite cloche pour rien manquer. Soyez des nôtres. On va être avec vous avec des bons petits trucs, les petits trucs du mercredi Simplement Plein Air. Merci tout le monde et à la prochaine.